et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donnez à votre peuple, Seigneur, d'éviter la contagion diabolique. Da quasumus domine populo tuo, diabolica vitare contagia. Quelle est donc, mes frères, cette contagion diabolique dont l'Église veut aujourd'hui nous protéger? Est-ce l'orgueil, le blasphème, la haine, l'égoïsme, l'impureté, la cruauté, le mensonge? Bien sûr, il s'agit de tout cela à la fois, car tous ces vices sont liés entre eux, et le démon les favorise tous. Mais le nom du diable évoque d'abord la division. Diabolos, en grec, c'est le diviseur, celui qui désagrège, qui détruit l'unité. Et vous avez sans doute remarqué combien ce thème de l'unité domine les textes de la messe d'aujourd'hui. Souvenez-vous de l'épître que nous venons d'entendre. Quelle en est la grande idée? Que demande saint Paul aux Éphésiens? Saint Paul, quand il écrit, est emprisonné à Rome. Il ne peut donc pas leur rendre visite pour les voir, ni pour observer de ses yeux la façon dont ils vivent. Mais la grande consigne qu'il veut leur faire passer est celle de l'unité, la charité entre chrétiens, l'unité. Gardez l'unité de l'esprit par le lien de la paix, leur dit-il. Et pour bien établir cette unité, il remonte au principe. Car si le diable est un principe de division, semant partout la haine, l'opposition et la discorde, Dieu est au contraire le grand principe de l'unité. Il y a un seul corps et un seul esprit, dit saint Paul, de même que par votre vocation, vous avez été appelés à une unique espérance. Autrement dit, nous autres, chrétiens, sommes unis par le fait que nous tendons tous à un même but. Et saint Paul continue en expliquant, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Autrement dit, il n'y a qu'un seul Dieu, et tous ceux qui s'attachent à Dieu sont donc obligatoirement, par le fait même, unis entre eux. Si l'on peut constater des divisions parmi les hommes, cela vient forcément du fait que, d'un côté ou de l'autre, et souvent malheureusement des deux côtés à la fois, il n'y a pas vraiment d'union à Dieu. Vous avez entendu, mes frères, à la suite, le même enseignement dans la bouche de Jésus dans l'Évangile. D'abord, la question. Maître, quel est dans la loi le plus grand commandement? Apparemment, c'est une question très légitime, posée avec beaucoup de respect par un homme qui cherche seulement à s'instruire. En réalité, c'est un piège. Le docteur de la loi veut mettre Jésus dans l'embarras. Et l'on retrouve dans sa question elle-même l'influence du grand diviseur. Quel est le plus grand commandement, demande-t-il. Cette question, qui paraît innocente, est déjà, mine de rien, une façon de dissoudre la loi de Dieu, comme si elle n'était qu'une collection de commandements divers, additionnés et ajoutés les uns aux autres de façon arbitraire, et qu'on pourrait donc, à son gré, séparer, disjoindre et mettre en concurrence les uns avec les autres. Or, Jésus refuse d'entrer dans cette dialectique. Il y a deux grands commandements, dit-il, et même, en réalité, il n'y en a qu'un seul, car le second est semblable au premier. Il n'y a qu'un seul commandement, l'amour de Dieu, et ce commandement implique nécessairement l'amour du prochain, parce qu'en fait, c'est Dieu qui est aimé dans le prochain. On touche ici le cœur du christianisme, le cœur de l'enseignement de notre Seigneur. On peut même dire, en quelque sorte, qu'on touche le cœur de Dieu, le secret de Dieu. Dieu est charité, précisément parce qu'il est une unité parfaite en trois personnes. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette unité et cette charité unifiante. Les apôtres l'ont bien compris. Saint Jean aimait à répéter « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, son prochain, est un menteur. » Et saint Paul, dans l'épître que nous venons d'entendre, donne des conseils concrets. Pour pratiquer la charité, il nous donne un triple mot d'ordre. Humilité, douceur, patience. Et pour mettre en œuvre ces trois vertus, il nous invite à considérer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur et Père de toutes choses, qui est, dit-il, au-dessus de tous, qui agit à travers tous et qui est présent en tous. Trois vérités très importantes qu'il faut considérer en détail. Donc, Dieu est au-dessus de tous, il agit à travers tous et il est présent en tous. D'abord, Dieu est au-dessus de tous. Et cela doit nous aider à pratiquer l'humilité en écrasant notre orgueil. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Tout, sauf le péché, qui est en nous, la seule chose qui vienne seulement et proprement de nous. C'est une vérité que nous devons souvent considérer. Et non seulement nous devons la méditer dans notre esprit, mais nous devons la faire descendre dans notre cœur et ensuite dans nos actes, dans nos paroles et dans notre attitude. Pour devenir humble, nous devons commencer par réfléchir souvent à la grandeur de Dieu et à notre totale dépendance à son égard, mais nous ne devons pas en rester là. Nous devons ensuite, et c'est très important, faire descendre cette vérité dans notre cœur, dans notre volonté, c'est-à-dire travailler à aimer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Aimer notre dépendance, c'est tout simplement aimer Dieu. Aimer ce principe absolu de toute chose qui seul existe par lui-même, et c'est aussi aimer la bonté par laquelle il nous fait exister. Il faut donc travailler à aimer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Non seulement considérer cette vérité avec notre intelligence, mais y adhérer par notre volonté. Et ensuite, cela nous fait adopter en pratique une attitude conforme à cette vérité. Et progressivement, cela mène les saints à savoir même apprécier et trouver de la joie dans les humiliations, si pénibles qu'elles soient pour la nature. Non pas que les humiliations en soi leur paraissent bonnes, mais parce qu'elle leur rappelle cette grande vérité qu'ils aiment, qui est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est cela qu'on appelle la vertu d'humilité, reconnaître et aimer cette dépendance. Dieu est au-dessus de tous, dit saint Paul. Il dit aussi, Dieu agit à travers tous. Et cela doit nous aider à pratiquer la vertu de patience. En tout ce qui nous arrive, nous devons savoir reconnaître la main de Dieu et l'action de la providence divine. Alors ici, vous me ferez peut-être une objection en me disant que d'autres personnes soient parfois les intermédiaires de Dieu pour me faire du bien, je veux bien l'admettre. Mais ça n'est quand même pas toujours le cas. Dans bien des cas, les autres ne font pas la volonté de Dieu et ils peuvent me faire du mal. Et c'est ici qu'il faut se souvenir de cette grande vérité que la providence de Dieu dirige absolument tout. Tout ce qui nous arrive est voulu par Dieu, soit voulu expressément, soit par une volonté permissive. Dieu l'a permis. Et parce que Dieu est bon, il ne permet le mal que dans la mesure où nous-mêmes pourrons en tirer un plus grand bien. Voilà une vérité très importante qui est d'ailleurs dans la Sainte Écriture. Tout coopère au bien de celui qui aime Dieu. Donc rien, personne ne... Les gens peuvent essayer de nous nuire. En réalité, Dieu ne va leur permettre de nous nuire que dans la mesure où nous-mêmes, finalement, nous pourrons tirer un plus grand bien. Un plus grand bien qui peut être un bien d'ordre moral, d'ordre spirituel. Dans certains cas, ce sera même un bien d'ordre temporel, parce que certaines personnes se rendent compte après coup qu'un coup qui les avait fortement marqués, finalement, leur a été bénéfique. Et de toute manière, en tous les cas, si l'on fait la volonté du bon Dieu, rien, personne ne peut nous nuire, car tout ce qu'on fera pour nous nuire finira par se retourner en notre faveur d'une façon ou d'une autre. Dieu qui est bon ne permet aucun mal dont nous ne puissions tirer un plus grand bien si nous-mêmes coopérons à la grâce de Dieu. Évidemment, c'est une vérité que nous avons besoin de considérer souvent parce qu'on a tendance à l'oublier dès qu'on se trouve dans les épreuves. Et donc, il faut réussir à la méditer et à l'aimer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les saints réussissaient à être toujours joyeux dans les épreuves, parce qu'ils se disaient, et même les épreuves les plus lourdes, parce qu'ils se disaient, si Dieu permet que m'arrive ce mal, qui me paraît être un mal assez important, c'est forcément qu'il me prépare un bien encore plus grand. Il n'aurait pas pu me permettre que m'arrive ce mal si ça n'était pas pour préparer un bien encore plus grand. Et quand on voit les choses comme ça, on peut effectivement se réjouir des difficultés. Donc, Dieu est au-dessus de tous, Dieu agit à travers tous, grâce à l'action de la providence divine qui dirige tout, et cela doit nous permettre d'exercer la vertu de patience. Enfin, Dieu est présent en tous. Et ici, saint Paul nous exhorte à la douceur, savoir considérer que Dieu est présent soit par la nature, par les dons qu'il a donnés à chacun, ou même par la grâce, dès qu'il s'agit de personnes qui sont en état de grâce, dans toutes les personnes avec qui nous avons à traiter. Et donc, ces personnes, nous devons les traiter avec douceur, car au jour du jugement, Dieu nous fera comprendre que la façon dont nous avons traité notre prochain est la façon dont nous l'avons traité lui-même. C'est la grande scène du jugement où notre Seigneur sépare les bons des mauvais et dit aux uns « Venez les bénis de mon Père parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez abreuvé. J'étais prisonnier et vous m'avez visité, etc. » Et les justes disent « Mais quand donc, Seigneur ?» Vous avons-nous ainsi nourri, abreuvé, visité ? Et Jésus répondra, « Toutes les fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais toutes les fois où vous avez refusé de le faire, c'est à moi que vous avez refusé de le faire. » Par ailleurs, notre Seigneur explique clairement que nous serons traités, nous-mêmes, de la façon dont nous avons traité les autres. Si nous avons été durs avec les autres, Dieu nous traitera avec la même mesure, de façon dure. Et si nous avons su être indulgents avec les autres, Dieu saura être indulgent envers nos fautes. C'est la règle qui nous est donnée, qui est répétée jusque dans le Pater, le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, savoir reconnaître cette présence de Dieu va nous permettre de gagner la vertu de douceur. Dieu est au-dessus de tous, cela doit nous permettre de cultiver l'humilité. Il agit à travers tous et le méditer nous aidera à grandir dans la patience. Dieu est en tous et cela doit nous aider à pratiquer la douceur. Et profitons, mes frères, de ce que nous sommes entrés dans le mois du rosaire pour progresser dans ces vertus en méditant chaque jour, les mystères de la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame. Car c'est précisément cela que nous faisons lorsque nous méditons le rosaire. Nous regardons toutes ces vertus qui ont été pratiquées par notre Seigneur. Nous, nous les laissons pénétrer d'abord dans notre esprit en les considérant. Ensuite, nous devons les faire descendre dans notre cœur en les aimant. Et en même temps, nous devons demander par la prière, supplier pour avoir la grâce que de notre cœur, elle passe dans nos actes et dans nos paroles et dans toute notre attitude. Donc profitons de ce temps du rosaire, ce mois du rosaire, pour ainsi grandir dans cette grande vertu qui est la vertu de charité, la reine des vertus, et dans ces vertus qui lui sont liées, qui sont l'humilité, la patience et la douceur. Que Notre-Dame du Rosaire nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.